Bienvenue. On a probablement tous quelque part une vieille boîte à chaussures ou un tiroir qui déborde de cartes postales. Des souvenirs de vacances, des vœux de bonne année.
Des petits bouts de carton qui prennent la poussière.
C'est ça. Mais aujourd'hui, on va se poser une question. Et si ces petits cartons n'étaient pas juste des souvenirs, mais de véritables machines à remonter le temps?
Une sorte de Google Street View du passé, mais sur papier.
Exactement. Pour explorer cette idée, on se plonge dans une source absolument formidable.
Ah oui.
Une étude tirée du bulletin numéro 71 du Cartoclub Avronais, consacré à la bastide de Sauveterre de Rouergue.
D'accord.
L'objectif, c'est de voir comment une collection de cartes, sur plus d'un siècle, peut nous raconter l'histoire d'une ville. C'est une analyse incroyablement fouillée.
Et qui l'a menée?
Alors, le maître d'œuvre de cette entreprise, c'est l'historien Jean-Louis Couder. Et il faut aussi souligner que c'est Guy Mazars qui a réalisé la mise en page.
C'est une excellente approche. Parce que la carte postale, c'est un peu l'archive de l'ordinaire. Elle ne capture pas seulement les grands monuments. Elle fixe ce qui a disparu sans faire de bruit. La vie de tous les jours, les petits métiers, l'atmosphère d'une rue à un instant T.
C'est une fenêtre, en fait.
Voilà. Une fenêtre ouverte sur un monde à la fois familier et complètement révolu.
Alors, commençons par les bases. Sauveterre de Rouergue est une bastide. On entend souvent ce mot, mais concrètement, ça veut dire quoi, une ville planifiée au XIIIe siècle?
C'est un peu l'inverse de la ville qui pousse de manière organique. Une bastide, c'est une ville nouvelle, créée de toutes pièces.
Une sorte de ville champignon.
Oui, mais une ville champignon avec un plan d'architecte très précis. Et Sauve des Terres, fondée en 1280, est un cas d'école. Oubliez les ruelles tortueuses du Moyen-Âge.
D'accord.
Ici, tout est géométrique. C'est un plan en damier, un carré de 200 mètres de côté, divisé en 9 îlots.
9 îlots.
Oui. 8 pour les maisons et l'îlot central, il est laissé vide, c'est la place du marché, le cœur du réacteur.
Et les cartes postales aériennes, même celles du milieu du XXe siècle, le montrent de façon spectaculaire. On voit ce plan, cette intention quasi mathématique vue du ciel, c'est stupéfiant.
Absolument. Et ce plan, en fait, c'est une véritable déclaration d'intention. C'est la pensée rationnelle et commerciale qui s'impose à l'urbanisme.
Comment ça ?
Les rues droites, c'est pour une circulation efficace. La place centrale immense, elle crie « Ici, on fait du commerce ».
D'accord, c'est la priorité.
Et ce qui est fou, c'est que chaque habitant recevait un lot pour sa maison et un jardin à l'extérieur. C'était une planification totale de la vie.
Une offre clé en main, presque.
C'est exactement ça. On a souvent qualifié ces bastides de start-up urbaine du XIIIe siècle. L'expression est parfaite.
J'adore cette analogie. Alors, justement, allons voir ce que ces cartes nous racontent de la vie dans cette start-up, en commençant par la place centrale. Les toutes premières cartes, il y en a une de 1905.
Oui.
Elles montrent des bâtiments à l'aspect, un peu usé.
Ah oui, on est loin de l'image proprette d'aujourd'hui.
Complètement.
Et c'est ça qui est précieux. Ces images nous montrent les lieux avant notre obsession pour le patrimoine et la restauration. À l'époque, ce n'étaient pas des monuments, c'était des lieux de vie.
Avec l'usure du temps.
Voilà. La carte capture cette authenticité un peu brute. On y voit aussi des détails techniques fascinants, comme ce puits au milieu de la place.
Qui est remplacé sur des cartes plus tardives par une pompe mécanique en fonte.
Un petit détail, mais qui change tout.
On touche à un point essentiel. Ce qui est incroyable avec cette pompe, c'est qu'elle nous montre que la modernité au début du XXe siècle, pour la plupart des gens, ce n'est pas la Tour Eiffel.
Non.
C'est ça. C'est une pompe en fonte qui remplace un seau et une corde. Pour les habitants, c'était la révolution technologique du quotidien.
Et la carte postale est là pour le prouver.
Exactement. Elle capture cette histoire à échelle humaine.
L'étude mentionne même une méthode assez poétique pour dater les clichés de cette place. Apparemment, on peut les classer en observant la croissance d'un arbre qui a été planté.
Ah oui, l'arbre. Est-ce que c'est fiable, ça, comme technique?
C'est les deux. Évidemment, on ne va pas dire « cet arbre fait 3 mètres, donc la photo date de 1912 ».
D'accord, ce n'est pas si précis.
Non. Mais en croisant cette information avec le style de la carte, le cachet de la poste, cet arbre devient un indice visuel de plus. C'est du travail de détective. L'historien utilise tout ce qu'il a sous la main.
Y compris la botanique.
Y compris la botanique.
Ce plan si parfait qu'on voit du ciel était donc le cœur commercial. Mais il y a un paradoxe. Cette ville, conçue pour être ouverte, a dû se barricader.
Oui, la conception originelle, c'était l'ouverture, les échanges. Mais l'histoire, avec un grand H, a tout bousculé.
La guerre de 100 ans.
Exactement. Et là, la priorité absolue, ça devient la sécurité. Du coup, Sauveterre construit des remparts, des tours, des portes fortifiées.
Et puis, la paix revenue.
Ces défenses deviennent inutiles. Et au XIXe siècle, on les démolit. On vend même les pierres aux enchères.
Et c'est là que la carte postale devient un document irremplaçable. Elle nous montre les vestiges, comme la tour de la Mairette, avant leur grande restauration du XXe siècle.
C'est ça. On voit l'état brut, la pierre mangée par les siècles. C'est un témoignage de l'histoire avant qu'on ne la nettoie pour les touristes.
Ah oui, ça, c'est un détail incroyable. L'étude montre des cartes où les fossés sont encore en eau.
Oui, et ce n'était pas que des douves.
Non, c'est ça qui est fou. On y voit des scènes de la vie quotidienne. Le bétail qui vient s'abreuver.
Des canards qui barbotent.
Et surtout des femmes qui font la lessive. Une carte des années 50 montre même des pierres inclinées installées au bord de l'eau, de vrais lavoirs improvisés.
Imaginez la scène aujourd'hui. Le bruit, les conversations, l'odeur du linge mouillé. C'était un lieu de travail, mais aussi un lieu de sociabilité intense, exclusivement féminin.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce sont des jardins, des parkings. On a transformé un espace de travail communautaire en un espace silencieux. Cette simple image, c'est un résumé de notre évolution sociale.
Jusqu'ici, on a parlé de pierres, de plans, mais quand on zoome vraiment sur ces cartes, il y a autre chose. Il y a des visages.
C'est là que l'archive devient humaine.
Des fantômes du passé qui nous regardent. Et c'est là que tout bascule, non ?
Oui, on passe de la topographie à la sociologie, à l'histoire incarnée.
Complètement. L'étude présente une carte où des enfants posent à la sortie de l'école. Ils nous fixent, à plus d'un siècle de distance. Mais la plus incroyable, c'est une photo de 1904, à la terrasse du Café de l'Univers.
Ah oui, je la vois.
On y voit des clients, des notables locaux en costume. Et l'étude identifie l'un d'eux.
C'est ça qui est fort. Il s'agit de Charles Cossanel, un député de l'Aveyron.
C'est fou.
Un député à la terrasse d'un café.
Et ça nous dit quelque chose de fondamental. Il n'est pas dans un bureau parisien, isolé. Il est au café du village, visible, accessible. La vie publique se déroulait littéralement sur la place publique.
C'est une petite leçon de science politique locale, en fait.
Tout à fait.
Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas, ce qui est écrit au dos. L'étude cite une correspondance de 1929. « Depuis notre arrivée, les enfants sont dehors en bonne compagnie et s'amusent à qui mieux mieux. »
C'est une phrase toute simple.
Oui, mais elle évoque un monde de confiance, de sécurité, une liberté pour les enfants qui semble aujourd'hui presque inimaginable. Le texte donne une âme à l'image. Il nous donne accès aux émotions de l'époque. L'image nous montre la rue, le texte nous dit ce que ça voulait dire de les laisser aux enfants.
Et puis il y a les fêtes, les grands moments collectifs.
Bien sûr.
Il y a des cartes de la fête de la lumière et surtout la procession de la Saint-Christophe. On voit la fanfare, les jeunes conscrits qui organisent et sur une carte des années 30, une scène surréaliste.
La bénédiction des voitures ?
Oui, tout aligné le long du boulevard. C'est incroyable.
C'est une image extraordinaire. On y voit une société en pleine transition. C'est la tradition, le rituel ancestral qui court après la modernité pour tenter de lui donner un sens.
De l'apprivoiser.
C'est ça, on bénissait les chevaux, maintenant on bénit les Citroën. La carte postale fiche ces moments précis de bascule.
Tout ça nous amène à une dernière réflexion. La carte postale elle-même a évolué. Le support raconte aussi sa propre histoire.
Oui, le regard du photographe n'est plus le même, et donc l'histoire qu'il raconte non plus.
D'abord, techniquement, c'est évident. La photo aérienne en couleur offre une vue d'ensemble que les pionniers ne pouvaient qu'imaginer.
C'est sûr.
Mais le plus intéressant, c'est le changement de sujet. Les premiers éditeurs, c'était les grands succès. La place, l'église, la tour. Des vues générales.
On montrait le monument, le site à visiter. C'était un souvenir, une preuve. J'y étais.
Alors que les photographes plus récents s'attardent sur des détails. Une porte sculptée, une ferronnerie, le grain d'une pierre.
Le regard est devenu plus intime, plus esthétique.
Exactement.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette évolution du sujet reflète notre propre évolution par rapport au patrimoine. Au début, on photographie le monument. Plus tard, on commence à apprécier la texture, le détail, l'artisanat.
La carte postale ne dit plus seulement « j'étais ici ».
Non, elle dit « regarde la beauté de ce détail, la valeur de ce savoir-faire ».
C'est une excellente analyse. Et cette évolution se voit aussi dans la fonction même de la carte. Elle devient un outil de promotion.
Elle entre dans l'ère du marketing.
Carrément. L'étude montre des cartes publicitaires pour un hôtel-restaurant, pour un atelier de coutellerie, pour des événements culturels. Le patrimoine devient un argument de vente.
La carte postale n'est plus un souvenir, c'est un flyer. C'est la transformation finale du patrimoine en ressources.
En ressources économiques.
culturelle, touristique et donc économique. La carte postale accompagne et documente ce changement de paradigme. On ne se contente plus de montrer un lieu, on le valorise, on le met en scène, on le vend.
Pour résumer, cette analyse sur Sauveterre le démontre brillamment. Une collection de cartes postales, ce n'est pas juste un album de souvenirs un peu désuets, c'est une archive vivante.
Un outil d'historien.
Qui retrace les métamorphoses d'un territoire sur plus d'un siècle.
Tout à fait. Et au-delà de l'histoire de ce village, ces images nous lancent une invitation, celle de regarder notre propre environnement avec cet œil d'archéologue du quotidien. Chercher les traces du passé dans le présent. La forme d'un bâtiment, une vieille inscription. L'histoire n'est pas que dans les livres, elle est sous nos pieds.
Je voudrais finir sur une pensée. Les cartes postales les plus récentes sont des cartes multivues qui présentent Sauveterre aux côtés d'autres plus beaux villages de France. Le village est devenu une marque. Et ça me fait réfléchir.
Ah oui, hein.
Quand un lieu si riche en histoire authentique devient une attraction touristique, même une très belle attraction, que gagne-t-on en visibilité et que risque-t-on de perdre ? Est-ce que l'âme des lieux, celle qu'on a vue sur les vieilles cartes, celle des enfants qui jouent et du député au café, ne risque pas de se transformer en simple décor ?